Pour ce dimanche de Pâques 2020, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur les raisons qui font que nous croyons que Jésus est ressuscité. Nous le savons, la résurrection de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi chrétienne n'est qu'une fantaisie, qu'une folie, qu'une illusion. Par contre, si Jésus est ressuscité, alors sa résurrection confirme tout ce qu'il a dit. Confirme qu'il est le Fils de Dieu envoyé pour payer la rançon de notre péché. Confirme que Dieu a agréé le sacrifice de son Fils. Confirme que par Jésus, nous pouvons avoir le salut de notre âme, la réconciliation avec Dieu le Père, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Oui, la résurrection de Jésus est la base de la foi chrétienne, de notre foi, de notre espérance, qui va au-delà de la mort. Mais pourquoi donc croyons-nous que Jésus est ressuscité? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour l'affirmer? En fait, nous pouvons répondre à cette question de plusieurs manières. Et j'aimerais ce matin rapidement en évoquer sept. Pour cela, je me suis beaucoup inspiré de ce que Jules Marcel Nicole écrit dans son précis de doctrine chrétienne. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Premièrement, parce que Jésus a prédit sa résurrection. La lecture de quelques passages suffira à nous en convaincre si nous en doutons. Matthieu 16, 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Marc 9, versets 9 à 10, « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux qu'est-ce que ressuscité d'entre les morts. » Marc 9, verset 31, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Jean, chapitre 2, verset 18 à 22, « Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Puis un dernier texte, Marc 14, verset 28, « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée, dit Jésus. » Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Premièrement, donc, parce que Jésus lui-même l'a annoncé, parce qu'il l'a prédit, ce qui est incroyable en soi, et témoigne bien qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Deuxièmement, parce que l'Ancien Testament l'a prophétisé. Les auteurs du Nouveau Testament vont citer plusieurs passages pour le montrer. Prenons l'exemple du psaume 16, verset 10, et ce que Pierre en dit dans sa première prédication après la Pentecôte. Psaume 16, verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. » Acte 2, verset 24 à 31, c'est Pierre qui parle, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, » il parle de Jésus, « parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, fait ici le lien entre ce verset 10 du psaume 16 qui dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption » et la résurrection de Jésus. Et il souligne que David ne pouvait pas parler de lui, mais qu'il prophétisait au sujet de Jésus et de sa résurrection. C'est ce qu'il sous-entend au verset 29 quand il dit que David est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. C'est ce qu'il dit explicitement au verset 31 quand il parle de la résurrection du Christ. Ce n'est donc pas le corps de David qui n'a pas vu la corruption. Ce n'est donc pas son âme qui n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts. Le corps de David a bien vu la corruption puisqu'il est mort, enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. L'âme de David est bien restée dans le séjour des morts pour les mêmes raisons. David ne parlait donc pas de lui. Il ne pouvait pas parler de lui, mais il prophétisait la résurrection de Jésus. Il annonçait prophétiquement la résurrection de Jésus. Notons ici que l'apôtre Paul va lui aussi citer ce verset du psaume 16 dans acte 13 quand il sera à Antioche de Pisidie pour arriver à la même conclusion. Acte 13, versets 36 et 37. « Or David, dit-il, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Il y aurait encore bien d'autres passages à évoquer. Jules Marcel Nicole mentionne les plus importants, et je le cite pour finir ce point. « La résurrection de Jésus, écrit-il, était déjà prédite dans l'Ancien Testament. » Paul résume l'Évangile en trois phrases. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. » Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Quelques textes précis sont cotés à cet égard dans le Nouveau Testament. L'engloutissement, puis la délivrance de Jonas en est une préfiguration de l'événement. Matthieu 12, 40. Pierre et Paul invoquent le psaume 16, nous venons d'en parler. D'autres passages aussi sont concluants. Le psaume 22, qui dans une première partie décrit en termes réalistes le crucifiement, se termine par l'exaltation de celui qui a été si profondément humilié. Surtout sous la plume d'Ésaïe, nous lisons « Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Fin de citation. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Deuxièmement, parce que l'Ancien Testament l'a annoncé, l'a prophétisé. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Troisièmement, parce que le tombeau était vide. Certains ont avancé pour expliquer le tombeau vide que les disciples avaient volé le corps de Jésus. C'est la plus ancienne des théories de ceux qui nient la résurrection de Jésus, puisqu'elle date du jour même où le tombeau a été trouvé vide. Ce sont d'ailleurs les autorités juives qui ont inventé cette thèse. Nous lisons dans Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données, et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La grande difficulté ici pour les autorités juives, c'est que le tombeau était gardé par des soldats romains. Compte tenu de ce que nous savons de l'armée romaine et sur la façon dont elle avait l'habitude de monter la garde, il est très improbable, voire impossible, que le corps de Jésus ait pu être volé à l'insu des soldats. Les autorités juives étaient d'ailleurs bien conscientes de cette difficulté, puisqu'elles disent à ceux qui ont monté la garde au verset 14 « Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Notons ici que Matthieu ne se donne même pas la peine de réfuter un raisonnement aussi faux. En effet, qui peut dire ce qui se passe quand il dort? Un tel témoignage n'a aucune valeur, il est complètement irrecevable. La thèse du vol du corps ne se heurte pas seulement au fait que le tombeau était gardé, mais il y a aussi l'état d'esprit des disciples à ce moment-là, après l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Ils étaient abattus, ils avaient fui, ils se cachaient, ils étaient complètement sous le choc. Ils n'étaient pas en état de faire, ni même d'imaginer quoi que ce soit. Ajoutez à cela leur respect de la loi, du sabbat. Et il est peu probable, même inimaginable, qu'ils aient enfreint la loi, qui plus est, pour dérober un cadavre dans une tombe pendant le sabbat. Enfin, croire au vol du corps, c'est croire que la prédication des apôtres est basée sur un mensonge conscient. À la limite, qu'ils le prêchent pourrait se concevoir, mais qu'ils souffrent pour un mensonge est bien plus difficile à imaginer. Et c'est ce qui s'est passé. Les apôtres ont été exposés à la torture, à la prison, au fouet, à la mort. Et tout ça pour une affirmation qui serait fausse? Non, la sincérité des apôtres saute aux yeux lorsqu'on lit le livre des Actes. Ils se seraient peut-être trompés, mais ils n'étaient pas des menteurs. John Stott écrit à raison à ce sujet, « Les hypocrites et les martyrs ne sont pas de la même trempe. » Si les disciples n'ont pas volé le corps de Jésus dans le tombeau, quelle autre explication reste-t-il du tombeau vide? Jules Marcel Nicole le dit ainsi. Le tombeau vide est très significatif, lui aussi. Si le corps du Sauveur était resté dans la tombe, les autorités juives, gênées par la prédication des apôtres, n'auraient pas manqué d'ouvrir le sépulcre pour prouver à tous que Jésus était bien mort et qu'il le restait. Mais elles n'avaient pas cette ressource. Et le mieux qu'elles ont pu faire, c'était d'accuser les disciples d'avoir volé le cadavre. Matthieu 28, 11 à 15. Accusation tout à fait invraisemblable vu les circonstances. Le tombeau vide atteste le caractère concret, corporel de la résurrection et prouve la fausseté d'un simple ressaisissement des disciples après leur désespoir du vendredi saint. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Troisièmement, parce que le tombeau était vide. Et puis, pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité? Quatrièmement, parce que plusieurs personnes ont vu le Christ ressuscité, lui ont parlé, l'ont écouté, l'ont touché, ont mangé avec lui. Et ces personnes en ont rendu témoignage. Nous en avons plusieurs dans la Bible, des témoignages qui ont été rédigés dans un climat de simplicité et d'objectivité qui les rend dignes de foi écrit Jules Marcel Nicole. Et il poursuit en parlant du témoignage de Jean, qui a tout le pittoresque d'un témoignage oculaire. Comme le disait Rousseau, ce n'est pas ainsi qu'on invente. Les témoins de la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament parlent d'apparition du Christ. Des apparitions si imprévues, si inattendues que parfois les disciples ont du mal à reconnaître leur maître. Des apparitions qui ont été accordées à des individus comme Marie-Madeleine, Pierre, Jacques, à de petits groupes comme les disciples d'Emmaüs ou quelques apôtres, et même à une foule de 500 frères à la fois. On ne peut expliquer toutes ces apparitions en recourant à des visions personnelles, soit à des visions personnelles, soit à une hallucination collective. Et puis il y a le témoignage de l'apôtre Paul, qui quand il était encore Saul de Tarse, avait mis tant d'énergie à combattre les chrétiens et l'évangile, lui aussi a rencontré le Christ ressuscité. Comment raisonnablement croire qu'il aurait tout inventé ? Soulignons enfin, comme l'écrit Jules Marcel Nicole, si les apparitions avaient été le résultat de l'imagination des chrétiens, il serait plus qu'étrange qu'elles se soient limitées à 40 jours. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Quatrièmement, parce que plusieurs personnes ont vu le Christ ressuscité. Et puis cinquièmement, nous croyons que Jésus est ressuscité parce que la vie des disciples a été révolutionnée, profondément transformée par la résurrection. Souvenons-nous comment les disciples ont abandonné le Seigneur dans le jardin de Gethsémané. Nous lisons dans Marc 14, verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ce fut la débandade. » Il n'était plus question pour aucun des disciples à ce moment-là de mourir avec Jésus comme ils l'avaient tous affirmé auparavant. Il n'était question que d'une chose, sauver sa peau. Ils ont ensuite vécu dans la peur. Pierre a bien suivi Jésus, mais de loin, en niant le connaître à 3 reprises. Ils se sont terrés, cachés, barricadés dans la chambre haute, par crainte des autorités juives. Et puis, nous les retrouvons au début du livre des Actes, plein de zèle et d'audace, plein d'enthousiasme et prêts à donner leur vie pour le Christ ressuscité. Qu'est-ce qui a donc transformé ces hommes apeurés en hommes pleins de courage ? Qui ne craignent plus les autorités juives, qui ont fait mettre à mort Jésus, qui ne craignent plus leur propre mort ? Pascal disait « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. » La réponse, c'est leur rencontre avec le Christ ressuscité, suivie bien sûr de la venue du Saint-Esprit, qui a complètement changé la donne. Et ils sont maintenant prêts à tout affronter. Et tout le livre des Actes nous le montre et nous le démontre. Il fallait vraiment que quelque chose d'incroyable se passe pour provoquer un tel revirement de situation. Et cet événement incroyable, c'est la résurrection de Jésus. Rien d'autre ne peut l'expliquer de façon satisfaisante. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Cinquièmement, parce que la vie des disciples a été révolutionnée. Et puis, sixièmement, nous croyons que Jésus est ressuscité parce que la résurrection est le message central de l'Église dite primitive. C'est la suite logique du point précédent. Pierre, porte-parole des disciples, avant et après la résurrection, ne va jamais chercher à prouver la résurrection. Il va se contenter de l'affirmer. Il va en rendre témoignage à chaque fois qu'il le peut. Il va faire de la résurrection de Jésus le cœur de sa prédication. Notons que déjà avant la Pentecôte, Pierre avait mis l'accent sur la résurrection en soulignant que le remplaçant de Judas devait être un témoin de la résurrection de Jésus. Et puis, dans la suite du livre des Actes, nous voyons, pour ne prendre que l'exemple de Pierre, que la résurrection est effectivement centrale à chacun de ses discours, à chacune de ses prédications, à la Pentecôte, au temple, devant le Sanhédrin à deux reprises et enfin chez Corneille. Dans chacun de ces passages, la résurrection de Jésus est la clé de voûte du raisonnement de l'apôtre. Comment imaginer un tel raisonnement des apôtres si la résurrection n'est pas vraie ? Comment imaginer leur assurance si la résurrection n'est pas vraie ? Comment imaginer tout ce qui a suivi dans l'histoire de l'Église si la résurrection n'est pas vraie, si tout cela ne serait basé que sur une supercherie ? Et puis, pourquoi les premiers chrétiens se sont-ils mis à se réunir le dimanche et non pas le jour du sabbat si la résurrection n'a pas eu lieu ? En fait, l'Église, à ses commencements, a grandi avec cette conviction inébranlable que le Christ était ressuscité, qu'il était vivant et qu'il était le Seigneur de l'Église. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Sixièmement, parce que la résurrection est le message central de l'Église dite primitive. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Septièmement et dernièrement, parce que des hommes et des femmes témoignent depuis que le Christ ressuscité a transformé leur vie. Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes n'ont cessé et ne cessent de proclamer que le Christ est ressuscité et qu'il a transformé leur vie. Si nous sommes disciples du Seigneur, c'est aussi le cas pour nous. Nous savons au fond de notre cœur que ces choses sont vraies. Pourquoi ? Pour toutes les raisons évoquées jusqu'ici. Et aussi parce que la foi que Dieu nous a donnée est l'assurance des choses que nous espérons, la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Oui, si nous avons rencontré le Christ, nous savons qu'il est ressuscité, nous savons que la parole de Dieu dit vrai, nous savons que Jésus est ressuscité, non seulement à cause des preuves historiques et bibliques, mais aussi car il a miraculeusement touché nos vies. Nous savons, c'est pourquoi nous croyons. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Peut-être qu'il faudrait dire nous savons et nous croyons. Ça serait peut-être plus juste. Pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité ? Septièmement, parce que des hommes et des femmes témoignent depuis que le Christ ressuscité a transformé leur vie. Chers frères et sœurs, chers amis, la résurrection de Jésus ne s'appuie pas sur du vent, sur des raisonnements fumeux, comme voudraient souvent le faire croire les détracteurs de la foi. Il y a de bonnes raisons, des raisons solides de croire à la résurrection de Jésus. Nos arguments ne sont et de loin pas les plus ridicules ou les plus bancals. En fait, écrit Jules Marcel Nicole, la résurrection de Jésus est l'un des événements les mieux attestés de l'histoire universelle. Et la seule raison pour laquelle beaucoup de nos contemporains n'y croient pas, c'est qu'il s'agit d'un miracle dont leur rationalisme étriqué nie la possibilité. Pour accepter ce miracle, il faut un acte de foi dont on ne saurait faire l'économie. Nous avons d'autre part que pour se satisfaire des explications invraisemblables et fumeuses avancées par les théologiens négateurs de la résurrection, il faut une dose de crédulité encore plus extraordinaire. et rester dans une incertitude prudente sur un point d'une importance aussi capitale, c'est une démission qui dénote une regrettable lâcheté intellectuelle. Comme croyants évangéliques, nous n'avons pas à nous sentir complexés dans ce domaine, mais le front haut, sûr du bon droit de notre position, nous pouvons redire « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Fin de citation. Oui, le Seigneur est réellement ressuscité. Et nous voulons nous en réjouir tout à nouveau ce matin. Oui, Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons être sauvés, justifiés, pardonnés de nos péchés. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons espérer en Dieu, espérer en la vie éternelle, espérer en notre propre résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vaine, notre prédication n'est pas vaine, et nous sommes les plus heureux des hommes. Voilà le beau message de Pâques, le message de la résurrection, un message de vie, d'espoir, de paix et de confiance. Nous sommes confinés, mais nous sommes libres en Jésus le ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité, je le crois. Le croyez-vous ? Amen.